Jamel, à toi la parole.
Très bien, bon, en tout cas, merci d'être venu ce soir.
Magnifique micro.
Tout à fait. Ah oui, il faut parler là, c'est vrai, sinon personne ne va pas s'enregistrer. Aujourd'hui, c'est la première d'une série de 5 conférences qui sont organisées par Migrainter chaque année. Donc, je vais juste vous rappeler, hein, le programme, vous avez dû, j'imagine, le recevoir via les enseignants responsables des masters ou par le labo. On a donc 5 conférences, une première donc, aujourd'hui, donc je présenterai l'intervenante dans quelques instants. Ensuite, il y aura une autre conférence jeudi 7 novembre sur la conversion au judaïsme à la question du pluralisme religieux, la construction d'un objet sociologique. Puis ensuite, le 12 novembre, donc la semaine d'après, il y en aura une troisième qui s'appelle « Faire une sociologie du judaïsme à partir du prisme de la filiation adoptive ». Et puis une quatrième conférence, le 16 janvier, sur les Bangladais du marché de Sabra et Shatila à Beyrouth, récit d'une greffe urbaine. Et puis un dernier qui sera les situations de frontières, ethnographie de la condition cosmopolite. Donc comme chaque année, le programme essaye de recouper différentes disciplines de sciences sociales et de sciences humaines. Donc là, on a des historiens, des sociologues et des anthropologues cette année qui couvrent des champs extrêmement divers, qui reflètent un peu la diversité de ce qu'on travaille à Migrainter. Voilà, donc pour présenter l'intervenante donc, d'aujourd'hui, qu'on remercie d'être venue nous faire le plaisir de venir ici. Donc Linda Guéry est historienne, elle est docteure à l'Université d'Avignon, elle a fait une thèse sur s'exclure et s'intégrer, le genre de l'immigration et de la naturalisation, l'exemple de Marseille, 1918-1940. Elle a été ensuite post-doctorante à l'Université du Québec à Montréal et a notamment mené des travaux en archives dans le cadre de projets sur histoire de vie des Montréalais déplacés par la guerre, le génocide et autres violences et droits de la personne à l'Université de Concordia. Et ensuite des travaux sur l'International Migration Service, qui est une organisation de femmes qui venait en aide aux migrants à l'échelle internationale dans les années 20 et les années 30. Alors elle est aujourd'hui post-doctorante à l'Institut national de recherche scientifique de Montréal et elle travaille sur la mobilisation internationale autour des discriminations de sexe dans le droit de la nationalité au XXe siècle. Et donc son ouvrage, dont la couverture est projetée ici, vient de paraître aux éditions de l'ENS Lyon. Voilà, donc on va te laisser la parole pour une heure et puis ensuite une demi-heure de questions et de débats après son intervention.
Merci. Donc, je voudrais d'abord remercier donc, Didier Moreau, Yann Sioldo-Zurcher, Anne Bonnefoy, Kamel Doray de me donner l'occasion de présenter cette recherche ici aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Kamel, donc, ce livre a pour origine une thèse de doctorat qui a été soutenue en 2008 à l'Université d'Avignon. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet de recherche au début des années 2000 ? Donc sur le genre de l'immigration et de la naturalisation dans les années 20 et 30. Alors pour plusieurs raisons. D'abord par une volonté de faire de la recherche en histoire des femmes et du genre. Donc cette histoire-là, je l'ai découverte au cours de mon année de maîtrise en 1998 dans un cours de Françoise Thébault à l'université, alors que je menais une recherche dans un autre domaine à ce moment-là, celui de l'histoire des prisons au XIXe siècle. Autre raison, donc aussi mon histoire familiale, du côté de ma mère qui a immigré d'Espagne dans les années 50 avec ses parents. Et aussi, j'étais interpellée au début des années 2000 par la question des femmes et de l'immigration, qui prenait de plus en plus de place dans la société française à ce moment-là. La figure notamment de la femme voilée dans l'espace politique, médiatique et militant, mais aussi la question des multiples discriminations que connaissent les immigrantes. Alors, par mes premières recherches historiographiques, j'ai essayé de voir donc, déjà si on parlait des femmes dans les livres d'histoire de l'immigration en France, et j'ai fait le constat d'un silence historiographique français sur cette question, dans un pays où pourtant l'histoire de l'immigration est longue et remonte au XIXe siècle pour l'immigration de masse. Mais j'ai aussi découvert dans la littérature étrangère des travaux, notamment dans la littérature anglophone et nord-américaine particulièrement, où là il y avait déjà quelques travaux sur cette thématique des femmes et du genre dans l'immigration. Donc j'ai d'abord été confrontée à un problème. Il était difficile de trouver les femmes dans les archives, dans les sources. Alors j'ai trouvé par exemple de rares parcours complets. C'est difficile de trouver des parcours migratoires assez complets. dont celui-ci que j'ai pu reconstituer grâce à un dossier demande de naturalisation, donc un dossier exceptionnellement détaillé. Les dossiers sont en général moins détaillés que celui-ci. Donc je vais vous le lire là, c'est sur la diapositive. Né en 1889 à Polaro, village du nord-est de l'Italie, à proximité de la frontière autrichienne, Jeanne D émigre dans le Piémont, où elle travaille pendant un an, de 1917 à 1919, en tant qu'infirmière dans l'hôpital hospice de la ville d'Alessandria. 9 mois après avoir quitté cet emploi, en juillet 1920, elle immigre en France avec son mari. Sa feuille d'immatriculation lui est délivrée à Saint-Romain-en-Galles, au sud de Lyon, 5 mois après son entrée en France. Elle habite ensuite à Vienne, en Isère, où elle est infirmière aux hospices civils de la ville pendant plus d'un an, puis employée aux filatures de laine Louis Dian. Elle quitte cet emploi en 1925 pour travailler pendant 3 mois dans un hôtel en Haute-Savoie. Jeanne travaille ensuite sur la Côte d'Azur comme femme de chambre dans plusieurs hôtels, à Cannes et à Jonc-les-Pins, jusqu'en 1929, tout en gardant son domicile à Vienne. En 1928, elle est séparée de corps et de biens de son mari en vertu d'un jugement prononcé dans un tribunal des Alpes-Maritimes. Elle quitte son domicile de Vienne en mai 1929 pour se rendre à Toulon, dans le Var, jusqu'en septembre 1931. Date à partir de laquelle elle habite La Ciotat, commune située à une trentaine de kilomètres de Marseille. Elle est sans emploi durant plus d'un an et reste auprès de son concubin ciotadin, grand blessé de guerre. En 1931, Jeanne demande la naturalisation pour pouvoir obtenir le divorce et se marier avec son compagnon. Elle continue de travailler comme femme de chambre dans un grand hôtel à proximité de La Ciotat, au Lec, de 1931 à 1933. Elle obtient une carte d'identité d'étranger en 1934 à Marseille, puis part faire une saison de mai à septembre 1934 dans un hôtel en Savoie. Jeanne a quelque argent placé et est propriétaire de 2 maisons à La Ciotat qu'elle a acquis à force de travail personnel et d'économie. Donc, citation extrait du dossier de demande de naturalisation. Sa demande de naturalisation est rejetée 2 fois en 1933 et 1935. Le ministère de la Justice accorde finalement la naturalisation à Jeanne en 1937 pour, je cite, « mettre fin à une situation irrégulière et permettre le mariage avec un de nos compatriotes grand mutilé et par égard pour lui ». Donc voilà ce parcours. Donc je vais vous parler plus tard du genre dans les politiques d'accès à la citoyenneté. Vous comprendrez un peu mieux là pourquoi on lui a donné la citoyenneté finalement. Mais ce parcours, je voulais vous le présenter puisqu'il montre une mobilité très importante au niveau des déplacements géographiques, comme vous avez pu le voir, mais aussi professionnels. Il montre aussi l'importance de la naturalisation pour elle. Elle a besoin d'être citoyenne française pour pouvoir divorcer et se remarier. Et le fait que celle-ci, après plusieurs refus, soit finalement acceptée, en partie par égard pour son mariage avec un Français, donc grand mutilé. Voilà donc pour une présentation d'un parcours individuel. Donc j'en ai peu trouvé, mais quelques-uns quand même. Alors je situe cette recherche, ce travail, dans l'histoire des femmes, mais aussi dans les études de genre, dans une approche à la fois d'histoire sociale et culturelle. Comment ai-je utilisé le concept dans cette recherche ? En quelques mots, d'abord un petit rappel sur l'histoire du concept de genre. Je ne sais pas si c'est nécessaire.
On a fait une journée d'études là-dessus, mais...
Ouais, bon, très court. Donc le concept est forgé par la médecine et la psychologie américaine pendant les années 50, au départ, qui étudie l'identité personnelle, en particulier la dissociation entre l'identité sexuelle et le sexe biologique chez certains patients. Puis, donc ça dans les années 50, puis il est repris dans les années 70 par la sociologie féministe anglo-américaine, qui considère le genre comme un outil efficace contre l'essentialisme, puisque celui-ci met en avant la construction sociale et culturelle des sexes. Donc, comme le disait Simone de Beauvoir, avant d'utiliser le mot de genre, on ne naît pas femme, on le devient, ou on pourrait dire aussi on ne naît pas homme, on le devient. Donc voilà l'idée du concept. Donc le concept est utilisé dans la discipline historique depuis les années 80, donc surtout outre-Atlantique, et aujourd'hui de plus en plus en France notamment, et ses usages sont aujourd'hui variés. Donc j'ai repris dans ma recherche plusieurs usages recensés par Françoise Thébault dans son ouvrage « Écrire l'histoire des femmes et du genre ». Donc le premier usage, celui qui opère un déplacement du groupe, c'est-à-dire les immigrants, à ses composantes et ses différences internes, Donc le groupe des immigrants est composé d'hommes et de femmes, mais aussi il y a des différences parmi les hommes et parmi les femmes qui composent ce groupe. Donc par exemple des différences d'âge, de classe sociale, d'origine. Deuxième usage, donc je me suis également interrogée sur le principe de partition et les significations d'une division entre masculin et féminin dans le phénomène d'immigration et de naturalisation, dans le contexte précis de la France de l'entre-deux-guerres. Et troisième usage, il s'agissait aussi d'analyser l'articulation de la catégorie de genre et de la catégorie d'immigrants étrangers au sein d'une configuration historique particulière. Alors les axes de domination sont en effet des constructions socio-historiques, imbriquées les unes dans les autres, et je voulais aussi interroger des rapports de pouvoir qui sont peu visibles dans les recherches actuelles en théorie féministe, qui s'est surtout concentrée sur les processus de racialisation. Alors la pensée intersectionnelle, qui est issue des Women's Studies, qui commençait à arriver en France au cours de mon travail de thèse, a aussi fait avancer ma pensée. Cette approche appréhende les rapports de pouvoir comme un système complexe où se conjuguent rapports de genre, de classe, d'ethnicité, d'âge, d'orientation sexuelle, etc. et remet ainsi en question le primat d'un seul rapport social, par exemple le genre ou la classe, donc dans l'analyse des sociétés et des rapports sociaux. Donc, au cours de ce travail, j'ai mesuré l'importance du statut administratif ou juridique de citoyenneté, donc, ou d'immigrant, comme différenciation sociale qui crée des frontières d'exclusion et d'inclusion, et son interdépendance avec d'autres catégories sociales, et surtout l'importance fondamentale de la prise en compte du contexte historique dans ce type d'analyse, dans l'analyse intersectionnelle. Donc je situe aussi cette recherche dans l'approche historique renouvelée des politiques d'immigration et des populations, donc qui propose depuis quelques années, peut-être 10 ans, 15 ans, une histoire sociale du politique qui prend davantage en compte le rôle des représentations, des processus de catégorisation, les acteurs chargés d'appliquer les politiques, donc des acteurs qui appartiennent ou non à l'appareil d'État, et les interactions entre les individus concernés par ces politiques et les acteurs qui les appliquent. Donc j'ai choisi Marseille comme exemple pour étudier cette question-là, car je voulais voir les politiques en pratique. Je voulais articuler les échelles nationales et locales pour analyser l'application des politiques et les pratiques administratives. Donc une grande ville d'immigration comme les Marseilles dans les décennies 1920 et 1930 m'a paru adéquate pour mettre en œuvre ma problématique. Alors pour la période que j'ai étudiée, le département des Bouches-du-Rhône est l'un de ceux qui compte la plus importante proportion d'étrangers recensés en France. Et la plupart d'entre eux, donc, dans le département des Bouches-du-Rhône, habitent Marseille. Donc la part de la population étrangère, selon les recensements, représentait pour la période que j'ai étudiée entre 10 et 19% de la population. Donc surtout, les nationalités les plus représentées, c'était, donc, pour ce qui est des étrangers, donc la nationalité italienne et espagnole les plus nombreuses, et aussi des Grecs, des Arméniens. Alors la proportion des femmes y était importante. Elle variait de 42 à 50% parmi ces nationalités italiennes et espagnoles, entre 42 et 50%. Donc mon choix s'est porté sur une échelle d'analyse méso, donc, qui correspondait à justement ce que je voulais voir, enfin, des politiques en pratique au niveau local. Donc l'échelle de la grande ville correspondait bien à mon sujet, puisque le niveau méso permet d'analyser la rencontre des individus avec l'État ou d'autres acteurs des politiques d'immigration et de relier des expériences individuelles à des structures plus larges, sociales, économiques et politiques. On trouve généralement au cours de l'histoire plusieurs logiques dans les politiques d'immigration, les politiques migratoires plus largement, qui n'ont pas les mêmes conséquences donc, sur le parcours et le quotidien des hommes et des femmes, donc principalement les logiques historiques là, des politiques d'immigration. C'est des logiques économiques et démographiques, et donc sélectives. Alors en France, les politiques sont de plus en plus attentives aux femmes à partir du lendemain de la Première Guerre mondiale, au moment où se met en œuvre plus largement une politique d'immigration régulée en Occident. Donc c'est à ce moment-là que naissent des systèmes nouveaux de gestion des migrations, après la Première Guerre mondiale, Et un moment aussi où des normes internationales se mettent en place et vont influencer les politiques nationales sur ces questions. Donc je rappellerai aussi que dès en fait, la seconde moitié du XIXe siècle, la France devient une zone d'immigration majeure en Europe, en raison, par rapport aux autres pays européens, d'un taux de natalité très bas, assez exceptionnel par rapport aux autres pays. Donc c'est une période où il y a un record dans la proportion d'étrangers recensés en France. Alors, considérant qu'il existe des interactions entre les représentations et les pratiques, c'est-à-dire que les représentations imaginaires ont des effets de réel, finalement, sur des pratiques ou des politiques, j'ai choisi d'explorer dans cette recherche les représentations et les discours sur l'immigration dans la France et le Marseille de l'entre-deux-guerres. Et j'ai essayé d'y trouver les femmes, qu'est-ce qu'on disait des femmes, qu'est-ce qu'on disait des familles à ce moment-là. Donc, c'est le premier point de cette présentation, après cette longue introduction. Alors, l'étude des discours d'experts, donc j'ai analysé des textes de différentes communautés discursives, donc des experts, notamment donc des juristes, des géographes, des hommes politiques aussi, des ouvrages de journalistes, j'ai analysé aussi la presse. Donc, et dans les discours d'experts, et d'hommes politiques et de journalistes, l'immigration en France, à ce moment-là, est présentée, donc dans les années 20 et 30, comme répondant aux besoins du marché du travail. Donc, elle est présentée comme ça, mais aussi elle est envisagée comme une solution à la faiblesse de la natalité française. Donc ça a été moins abordé par les historiens de l'immigration jusque-là, et on voyait vraiment que ça faisait partie de la façon dont on envisageait l'immigration à ce moment-là. Donc, dans un contexte où la question de la dépopulation, qui déjà hante la France depuis la fin du XIXe siècle, est réactivée suite à la perte donc, de 10% de la population masculine pendant la Première Guerre mondiale. Donc, cette question démographique est réactivée après la Première Guerre, et elle est mise en avant, là, elle est reliée à cette question de l'immigration. Alors, le thème de l'immigration familiale, donc, et c'est surtout par ce biais qu'on parle des femmes, est donc très présent dans les discours. Donc, par exemple, un extrait là, d'un document produit par l'administration, donc aussi parce que l'administration, c'est aussi une source là, de discours sur l'immigration. Voilà. Donc, en parlant de la procédure de regroupement familial dont j'ai découvert en fait l'existence dans les années 20. Dès les années 20, on situe généralement cette procédure-là après la Seconde Guerre mondiale. En fait, dès les années 20, il y avait déjà une procédure mise en place. Alors, cette procédure se justifiait alors par le besoin de stabiliser dans notre pays un matériel humain d'autant plus apprécié que les besoins étaient plus grands et par l'arrière-pensée de compenser les pertes de la guerre par l'assimilation des enfants et la naturalisation massive de familles plus prolifiques que les nôtres. Donc voilà, ça, c'était c'est extrait d'un document qui s'appelle « Introduction en France des membres des familles des étrangers salariés ». Alors en fait, dans l'observation des pratiques administratives liées à cette procédure de regroupement familial, qu'on n'appelait pas un regroupement familial, exactement, mais alors j'ai pu voir que si l'immigration familiale est souhaitée, la famille d'immigrants en période de crise économique est perçue comme une charge, et ça surtout au niveau local. Donc on voit bien que selon le moment et les observateurs, la famille de l'immigrant, elle est désirée, on dit il faut des familles pour repeupler la France, ou elle devient indésirable. Donc là, en période de crise, au niveau local, on voit c'est mal perçu, cette procédure-là, les préfectures, par exemple, veulent la limiter. Donc l'analyse historique nous montre que le sens donné aux migrations d'hommes et de femmes, ainsi que les représentations des immigrants et des immigrantes, varient selon le contexte et ceux qui en parlent. Dans les discours, le genre de l'immigration et de l'assimilation est bien marqué, donc ça dessine vraiment là, les places respectives des hommes tels qu'on le conçoit à cette époque-là, donc le travail et les femmes, la reproduction au sein de l'État-nation, et les enjeux de la mobilité, donc selon le sexe des individus. Alors, je rappellerai d'abord que seule l'immigration familiale en provenance de pays jugés proches d'un point de vue racial, entre guillemets, des Français, a été favorisée, principalement de Pologne et d'Italie, puisque l'immigration familiale coloniale a été mise de côté. Donc on empêchait les coniaux de faire venir leur famille alors qu'on voulait faire venir des familles de Polonais et d'Italiens, de préférence Italiens du Nord. Donc l'enfant, là aussi, le garçon, surtout d'immigrants, est souvent présenté comme l'assimilable idéal. Donc, ce qu'il est souvent dit, que c'est plus compliqué donc, et plus risqué pour les adultes, chez qui il faut éteindre un sentiment national pour le remplacer par un autre. Les adolescents ont dans certains textes une assez mauvaise image, en fait. Donc, par exemple, là, un journaliste, Georges Lefebvre, qui écrit un livre qui s'appelle « Homme-travail » sur l'immigration organisée dans les années 20. Et il décrit là la jeunesse polonaise, comme ça. Donc jeunesse plus amère, plus sceptique, plus nonchalante encore que la jeunesse française qu'elle côtoie. Humanité de transition, sans coutume et presque sans langage, sachant à peine lire et pas du tout écrire, affreusement ignorante. On tenta de sauver cette jeunesse, sinon de la guérir. Par quoi ? Par le sport. Donc on voit que le sport, il est préconisé par les garçons. Il est considéré, donc je cite, comme un facteur très favorable à l'assimilation et la francisation, donc particulièrement les équipes de football et de cyclisme, donc dans les années 20. Et là aussi, je cite encore, qui rapproche les immigrés et les Français. Donc ça, c'est un ouvrage de Demangeon et Moko en 1939. Donc là, parce qu'il est envisagé le sport comme comme combattre ensemble au sein d'une même équipe. Donc là, en ce sens, il a rapproché quelque part du service militaire et du soldat, de l'image du soldat. Alors, donc les femmes dans les textes sont supposées être d'une nature, ça apparaît très souvent dans différents textes, sont supposées d'être d'une nature sédentaire et apparaissent comme plus enracinées, attelées à leur foyer. Et la migration est évoquée pour elles vraiment comme un arrachement. Alors que l'homme est décrit d'une nature plus mobile, donc là, l'image souvent du soldat-travailleur qui ressort, mais aussi une image plus violente, moins rassurante que les femmes. Alors, les familles sont présentées comme plus prolifiques, donc faisant plus d'enfants, mais plusieurs auteurs s'inquiètent d'ailleurs de l'assimilation des pratiques malthusiennes des Français, qui limitent les naissances. Donc, c'est une caractéristique française, là, par contre, qu'on ne souhaite pas voir se diffuser chez les immigrants. Alors, j'ai aussi trouvé intéressant de constater que l'Italie veut empêcher les départs des femmes. Donc là, on voit bien les enjeux de la mobilité selon le sexe des individus. Elle veut empêcher les départs des femmes et veut les ramener au pays, par exemple, pour accoucher. Donc pour qu'elles accouchent de petits Italiens plutôt que de petits Français. Ou même l'Italie peut pratiquer sans doute ça aussi vers d'autres pays d'émigration que la France. Et donc l'Italie ne veut pas perdre des nationaux. Donc j'ai trouvé trace d'organisation de transport gratuit, de trousseaux offerts pour les bébés, de primes aussi pour des mariages au pays, donc pour que des couples viennent se marier au pays plutôt que se marier en France. Alors j'ai aussi analysé les représentations des femmes à l'échelle locale. J'ai analysé des textes à échelle nationale et des textes plus locaux à l'échelle de Marseille. Donc la presse, des textes d'auteurs locaux, des images aussi, des cartes postales par exemple. Donc les femmes sont bien présentes dans ces textes et ces images, mais de quelle manière donc on les représente ? Donc à Marseille, la nationalité façonne vraiment la catégorisation sociale des immigrants. En général, on présente les Grecs comme des aristocrates, les Espagnols des commerçants, les Italiens comme des ouvriers. Et dans les textes analysés, l'immigration italienne ouvrière inquiète. Donc on voit bien là le regard d'une classe sociale portée sur une autre, parce qu'il y a beaucoup de tensions politiques et une immigration de classe fait peur à ce moment-là. Alors, les hommes immigrants sont souvent représentés plus que ouvriers dans les usines, alors qu'ils sont très nombreux à être ouvriers dans les usines. C'est plus l'ouvrier, le docker, donc, qui domine dans les textes, parce que c'est rattaché à l'image comme port, de Marseille comme port. Et c'est une image très négative à Marseille, la figure du docker, puisque c'est une main-d'œuvre précaire. Qui fait concurrence à la corporation des portefeuilles. Donc c'est une image vraiment négative. Donc ils sont souvent décrits comme dockers, les hommes. Alors les coloniaux aussi apparaissent différents aussi, différentes de l'image des étrangers. Donc les rapports de genre, on voit dans les textes qui abordent les coloniaux, mettent plutôt en scène des relations avec des Françaises sur le terrain de la sexualité. Donc cette Immigration est formée principalement d'hommes seuls, puisque comme je vous l'ai dit, on a empêché qu'ils amènent leur famille, enfin que les familles viennent, qu'il y ait des femmes et des enfants. Et souvent, dans les textes, les coloniaux sont décrits comme ravisseurs de femmes blanches. Donc on retrouve dans ces descriptions les représentations racistes, en fait, assez courantes du colonisé, comme déviant sexuel, comme pervers, et l'idée d'une remise en cause du pouvoir colonial par la relation des colonisés avec les Françaises. D'autres historiens ont travaillé dessus, comme Christelle Tarot, par exemple, ou Emmanuel Blanchard. Alors, l'étranger criminel et ou politisé, là aussi, assez présent, et donc est présenté comme un danger pour la cohésion nationale. Et donc, si c'est souvent des figures masculines, là, criminelles ou politisées, donc j'ai trouvé aussi l'image de l'étrangère politisée. Et elle est plusieurs fois évoquée, notamment dans la presse, particulièrement au moment des grèves du Front populaire en 1936. Donc, par exemple, à propos d'une manifestation, un article de Marseille Matin, donc ça c'est un journal qui est plutôt proche de la droite, voire de l'extrême droite. Donc voilà une description de la manifestation. Alors, combien pouvait-il y avoir d'étrangers dans le cortège ? Impossible, bien entendu, d'articuler un chiffre. Mais ils étaient à coup sûr très nombreux. Donc c'est moi qui souligne tout. Ah non, en fait, non, je crois que c'est pas moi qui. C'est que c'était déjà souligné dans l'article original, pour cet extrait. Donc tout le révélait. Ces inscriptions étrangères, les visages et coiffures, l'accent des femmes qui chantaient et vociféraient, entendant le poing des injures à ceux qui arboraient dans le public la seule cocarde tricolore. Donc on voit là des comportements verbaux, donc une attitude considérée assez violente chez les femmes. La femme qui crie, c'est considéré comme violent. Donc se dirige ici vers le symbole national, la cocarde tricolore. Donc c'est une image forte de mettre un personnage féminin pour décrire cette manifestation. Donc la presse ressasse aussi beaucoup de violences entre étrangers. Donc il y a beaucoup de faits divers, des petits faits divers, qui sont décrits très brièvement, quelques phrases, qui décrivent des disputes, des bagarres entre hommes, souvent armés, qui sont titrés « entre arabes » ou « entre espagnols ». Donc on voit « entre arabes », « entre espagnols » assez régulièrement. Donc d'autres faits divers, à travers des chroniques ou des faits divers décrits plus longuement, donc qui occupent une place plus grande, et mettent souvent en scène des rapports de genre violents entre les étrangers, entre les hommes et les femmes. Alors, ces faits divers décrivent généralement des actes de violence d'hommes sur les femmes. Donc, par exemple, alors là, on ne voit pas. Donc là, un drame rue Coutellerie, donc c'est dans le Panier à Marseille. De 5 coups de revolver, un Italien tue sa femme qui lui reprochait sa conduite. Et si on lit l'article, on voit que presque la femme est excusée, en fait, d'avoir tué son conjoint qui était violent avec elle. Donc j'ai essayé de creuser un peu cette question-là, des rapports de genre. Pourquoi ils étaient perçus comme ça, les étrangers ? En fait, en lisant d'autres ouvrages, notamment Carole Reynaud-Paligaud, qui a travaillé sur le racisme. Et donc qui montre aussi, elle, que en fait, les rapports de genre comme critère d'évaluation des peuples, dans l'étude anthropologique, notamment des races humaines, entre guillemets, dès le 19e siècle. Donc les anthropologues mettent en avant la dimension hiérarchisante des races et considèrent les caractères intellectuels et moraux comme héréditaires, et ils intègrent vraiment dans leur échelle des peuples le sort réservé aux femmes, donc dans la hiérarchie des peuples. Donc ça, je retrouvais aussi dans d'autres textes cette idée-là d'une hiérarchie des peuples selon les rapports entre les hommes et les femmes. Alors, donc là, pour conclure ce premier point sur les représentations, là, et notamment celle de Marseille, donc les représentations de l'immigration à Marseille sont indissociables là, de la place marginale que tient la ville au sein de l'espace national. Donc on voyait aussi, j'ai étudié les discours des Parisiens sur Marseille, les discours des Marseillais sur Marseille, donc on voit déjà que ce n'est pas les mêmes. Donc Marseille est un port et sa localisation donc, est fondamentale dans les représentations de la ville, de sa population. Et les regards des savants et journalistes parisiens sur l'immigration dans la ville ne sont pas les mêmes que ceux des savants locaux. Donc, ils, eux, œuvrent à donner une image plus positive de l'immigration. Et souvent, ils décrivent, non, mais en fait, il n'y a pas tant... Enfin, une image positive ou même nier presque la présence immigrante dans certains quartiers. Donc, la xénophobie est activée au niveau local. Donc là, par divers biais dès la seconde moitié des années 20. Et l'image de la ville va se ternir de nouveau dans les années 30, donc en général en période de crise économique. Et des événements politiques, économiques, sociaux donc, vont rendre les étrangers responsables de la violence, la criminalité, le chômage, la mobilisation politique et sociale. Alors aussi, ce qui était intéressant de voir, c'était les données spatiales aussi qui entraient en jeu dans l'expression de la xénophobie. Il y a vraiment des quartiers qui avaient une image très négative, les quartiers d'immigration, ou même des rues qui avaient une connotation nationale, comme la Canebière, rue française, par exemple. On disait, alors qu'un autre disait, non, c'est la rue avec tous les peuples. Enfin, c'était marrant de donner des images. Enfin, il y avait vraiment des images comme ça, assez contradictoires parfois. Il y a aussi les vieux quartiers, les enclos, les camps, parce qu'il y a beaucoup de camps à Marseille, provisoires. Donc là aussi, des territoires qui illustraient souvent les descriptions de Marseille sous un aspect très négatif dans cette période. Alors j'en arrive au deuxième point de cette présentation, sur la question des flux migratoires et du travail, parce que les migrations correspondent généralement à des migrations de travail. Donc la question des flux et du travail. Alors, une des grandes questions de l'histoire de l'immigration et des études, je pense même pas que de l'histoire, là, des études en général sur l'immigration, qu'est-ce qui agit sur les flux migratoires? Alors, pourquoi les gens partent? Alors, les recherches ont montré que le marché du travail et les politiques étatiques ont un rôle important sur le déclenchement des départs, sur les départs, le marché du travail et les politiques étatiques. Mais qu'en est-il donc du genre dans cette affaire? Alors, en général, les hommes sont plus nombreux dans les flux migratoires, mais cela n'est pas tout le temps vrai, même au cours de l'histoire longue. Par exemple, on connaît le cas de l'immigration irlandaise aux États-Unis au XIXe siècle, donc dans lequel les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc là, pour plusieurs raisons, notamment l'éducation, le marché du travail, le système d'héritage aussi, la question de la dot. Donc il y a eu des cas de certaines nationalités là, qui sont parties, où il y avait déjà des femmes qui étaient plus nombreuses que les hommes. Et aussi, donc, Ravenstein là, aussi a montré, lui à la fin du 19e siècle, donc ses recherches assez anciennes, là, que la distance a un rôle important dans les flux migratoires, que les femmes bougent en général davantage lorsque les distances sont plus courtes. Donc là, il y a aussi la question spatiale qui entre en compte. Et par exemple, là, pour le cas de l'émigration italienne aux États-Unis, donc il y a moins de femmes pour les mêmes régions d'origine, par exemple, qu'en France, elles étaient plus nombreuses. Donc la distance était plus courte, par exemple. Alors la variation dans le temps de la composition sexuée des flux est aussi intéressante. Donc là, c'est là que l'histoire devient intéressante. Donc la question de la féminisation. Alors, comme l'a montré une historienne américaine, s'appelle Donna Gabaccia, en 1996, elle a, avec l'exemple de l'immigration de masse américaine, donc de 1820-1930, parce qu'il y a une féminisation de l'immigration aux États-Unis à partir des années 30. Donc, la variation du ratio homme-femme parmi les immigrants donc, peut s'expliquer par plusieurs facteurs, donc selon son analyse. La situation dans la région de départ, déjà, la situation des hommes et des femmes dans la région de départ, la régulation étatique de la mobilité et les besoins du marché du travail. Donc, dans les sociétés de départ, les positionnements sociaux différents selon le genre des individus dans le système de production et de reproduction va jouer sur les départs, sur les migrations. Et les politiques d'émigration aussi, donc du départ par les pays de départ, qui commence à être exploré par la recherche en histoire, explique aussi en partie le fait que des hommes émigrent davantage que les femmes. Donc, par exemple, l'Italie va élaborer une politique publique d'émigration à partir du début du XXe siècle, en partie sexuée. Donc, comme on l'a vu précédemment, elle veut plutôt garder ses femmes sur son territoire par rapport à la fonction reproductive des femmes dans sa conception de l'histoire de l'État-nation. Alors, enfin, les besoins du marché du travail joue sur la composition sexuée des flux d'immigration, puisque les besoins de la main-d'œuvre sont en général plus importants là, dans les secteurs masculins, donc ce qui peut expliquer aussi une présence plus importante des hommes. Mais il ne faut pas oublier que la main-d'œuvre féminine était aussi recherchée. Alors, pour les flux, donc, j'ai essayé de compter précisément les flux là, dans le cadre de cette recherche. Donc, le nombre, alors, et c'était des recensements d'étrangers. Donc, ce n'était pas des recensements d'immigrants. Donc, ce n'était pas la même catégorie. Il peut y avoir des étrangers qui n'ont jamais migré. Donc, c'était assez compliqué d'évaluer donc, les flux. Mais j'ai croisé les données des recensements avec des données de la statistique des étrangers, qui étaient les municipalités qui comptabilisaient les immigrants, les étrangers immigrants, qui arrivaient dans une municipalité, devaient se déclarer. Donc il y avait une statistique, donc on peut mesurer, même si ce n'est pas fiable, bien sûr, à 100%, ça a permis de comparer avec les recensements notamment. Donc j'ai mis en évidence que malgré les discours qui déplorent le manque des femmes dans l'immigration, parce que souvent, du coup, on disait il faut une immigration familiale parce qu'elle n'est pas assez familiale, il faut plus de femmes, plus d'enfants pour repeupler la France. Donc c'était un discours quand même assez présent. Donc les femmes sont quand même bien présentes malgré les discours donc dans la région, puisque je disais tout à l'heure, donc les femmes représentent près de la moitié des étrangers recensés. Et elles sont aussi assez nombreuses dans les flux enregistrés par la statistique des étrangers dont je viens de vous parler. Et j'ai aussi donc découvert que vraiment la France avait besoin d'une main-d'œuvre étrangère féminine, ce qui n'avait pas été souligné dans la recherche historique dans les années 20 et 30. Donc ça avait été un peu abordé notamment par Jeannine Ponty dans son histoire de l'immigration polonaise et aussi par Marie-Claude Blanche-Aléard sur l'immigration italienne, mais assez brièvement. Alors, donc dans un contexte, comme j'ai dit tout à l'heure, où l'immigration organisée prend forme après la Première Guerre mondiale, la venue de travailleuses étrangères donc, n'est pas envisagée par ceux qui mettent en œuvre les politiques comme celle des hommes. Donc, puisque, on l'a vu, la mobilité des femmes est considérée comme contre nature, elles sont considérées comme sédentaires, il y a beaucoup de peurs sociales donc, qui étaient déjà exprimées envers les migrantes internes. Donc qui franchissaient même pas des frontières, mais qui partaient de la campagne ou vers la ville, par exemple, une peur de ces migrations de femmes à partir du 19e siècle, elles sont encore présentes chez les acteurs des politiques d'immigration. Donc les femmes, elles sont considérées comme plus vulnérables, et leurs vertus seraient menacées par la mobilité, donc qui les éloigne du contrôle familial. Donc beaucoup de préoccupations morales qui ont freiné, donc selon moi, l'immigration organisée d'une main-d'œuvre étrangère féminine, dont le marché du travail avait pourtant besoin, parce qu'il y avait vraiment un manque, par exemple, de domestiques, et y compris en période de crise économique. Donc c'était des secteurs d'emploi, comme la domesticité, qui, même en période de crise, étaient en manque de main-d'œuvre. Donc ils avaient du mal à trouver, en fait, des immigrantes, même certaines voulaient, parce que comme la profession domestique était assez difficile, mal payée, etc., même les Italiennes, les Espagnoles ne voulaient pas exercer ce type de profession. Elles préféraient être ouvrières, par exemple. Donc, ils avaient du mal à recruter. Donc, après, ils ont toutes sortes d'idées. Par exemple, ils ont eu l'idée de recruter des enfants, des jeunes hommes, donc dans les pays coloniaux, par exemple. Donc, il y a d'autres idées, mais qui ne sont pas mises en œuvre, là, je pense, ou même aussi des Martiniquaises qui sont. Il y a eu une immigration organisée par privée, de manière privée, pas publique, de Martiniquaises en France dans les années 20. Alors, j'ai pu constater aussi dans les sources que l'embauche de travailleuses étrangères obéit aussi à la logique de baisse du coût de la main-d'œuvre et qu'il y avait des immigrantes qui étaient recrutées dans des travaux traditionnellement masculins, parce qu'elles étaient payées moins cher. Donc, par exemple, dans le domaine agricole, à la frontière, les agriculteurs donc, viennent embaucher des saisonniers agricoles, et ils préfèrent embaucher des femmes. Et dans les flux, dans les entrées, c'est majoritairement des femmes, en fait, qui rentrent. Parce que c'était, donc dans les textes, ils disent, une main-d'œuvre très recherchée, car payée moins que les hommes. Alors, dans le cas de la région marseillaise, j'ai pu relativiser le poids des politiques d'immigration de main-d'œuvre dans une région où l'immigration n'est pas nouvelle. Alors que dans des régions, par exemple, comme le nord de la France, là, l'immigration organisée a été beaucoup plus importante que dans la région marseillaise, où déjà les migrantes venaient de longue date et l'immigration de travail fonctionnait plutôt par les réseaux de connaissances et les chemins migratoires qui étaient déjà tracés par les générations précédentes. Donc il y a moins l'immigration organisée dans cette région-là. Alors de nombreuses femmes, comme leur mère ou leur grand-mère, avant elles, partent dans la région marseillaise pour travailler, donc dans les usines, la domesticité ou les champs. Alors, dans la domesticité, ça c'est clair que c'est vraiment un secteur important où tout au long de l'histoire, même toutes les vagues migratoires passent par ce métier. Enfin, c'est une niche, je ne sais pas comment on dit ça exactement. Mais... Donc, ça se renouvelle beaucoup, donc, parce que c'est un emploi peu valorisé, peu protégé. C'est un bassin de recrutement pour différentes raisons, donc selon les périodes. Alors, de nos jours, le phénomène a pris des proportions très importantes. Donc là, en raison du nombre considérable de femmes actives qui délèguent les tâches domestiques et le soin aux enfants à une employée, bien souvent une immigrante. Donc là, du fait de l'arrivée sur le marché du travail de plus de femmes, elles étaient déjà, mais davantage. Du coup, il y a beaucoup de... Enfin, le recrutement d'étrangères est assez important aujourd'hui. Alors, j'ai essayé aussi de mesurer le taux d'activité des étrangères sur le marché du travail dans les Bouches-du-Rhône. Donc, il était quasiment identique, d'après les statistiques, là, quasiment identique chez les Françaises et les étrangères. Donc, en général, elle a travaillé. Donc, on est dans les statistiques, donc c'est une source limitée, mais quand même entre 20 et 26%, selon les statistiques, le taux d'activité des femmes. Alors, dans le Marseille de l'entre-deux-guerres, là, les immigrantes donc, sont souvent surexploitées et touchent des salaires très bas. Donc, j'ai fait une étude de cas là, sur le cas des filatures dans un quartier de Marseille, la Capelette. Il n'y avait pas beaucoup de l'industrie textile à Marseille, mais il y avait ce cas-là des filatures. Et donc là, on voit bien que les femmes, c'était un travail très difficile. Et elles venaient directement d'Italie. Elles dormaient sur place. Donc, c'était un genre d'usine internat, comme il y avait aussi dans la région lyonnaise. Et c'était, donc elles étaient peut-être une centaine à loger dans l'usine directement. Et elles venaient parce que les salaires étaient quand même plus élevés qu'en Italie. Elles venaient temporairement, et d'ailleurs, beaucoup de femmes âgées, en fait. J'ai trouvé dans le recensement, en fait, il y avait beaucoup de femmes plus âgées que je l'aurais pensé. Donc elles travaillaient énormément, donc c'est un travail très difficile. Donc il y a un chanteur d'origine italienne qui s'appelle Robert Ripa, marseillais, qui habitait dans ce quartier, et sa mère travaillait dans ces usines, et il écrit dans son autobiographie, c'était des esclaves, elles travaillaient tout le temps. Même il décrit l'usine comme une prison à un moment. Alors, et j'ai trouvé donc que ces femmes ne sont pas pour autant restées inactives face à leur exploitation, elles se sont mises en grève à plusieurs reprises, de manière spontanée et autonome, pendant les années 20 et 30. Donc là aussi, c'est encore une figure qui reste un impensé, l'immigrante travailleuse déjà, mais en grève, encore plus, encore plus un impensé. Mais donc là, il y a eu des grèves dont personne n'avait parlé, en fait, dans l'histoire de Marseille. Alors un cas de figure aussi qui est plutôt évoqué par les sociologues dans les migrations récentes et qui est souvent présenté comme une nouveauté, et mérite d'être plus précisément développé, c'est celui des mères de famille qui émigrent seules. Alors ça, il y en avait beaucoup, en fait, déjà. Donc une Italienne immigrée à Marseille dans l'entre-deux-guerres raconte dans une interview que j'ai trouvée, parce qu'elles étaient toutes décédées, là, quand je fais cette recherche, les femmes qui ont immigré dans cette période, mais j'ai trouvé des entretiens faits dans un mémoire de maîtrise. Donc j'étais très contente. Donc voilà ce qu'elle dit. Moi, je voyais que ça allait mal, alors je suis partie. J'ai laissé mon mari et mes deux petites filles. Une chez une de mes tantes, et la plus petite, je l'ai laissée en nourrice. Elle avait 8 mois. Ma tante, ma grand-mère, elle laissait leurs petits au village pour gagner des sous à Toulon, à Hyères ou à Marseille. Elle laissait leur fille plus grande s'occuper du bébé. Donc on voit que c'était une pratique déjà même qui remontait à la période précédente. Alors, elle se place donc dans les usines, la domesticité, comme je l'ai dit. Voilà. Alors, donc aussi, il y avait cette profession de nourrice, qui est une figure là aussi de l'immigrante à Marseille, qu'on retrouve beaucoup, qui déjà date de la période d'avant, mais là, elle est très présente dans les années 20-30. On trouve des cartes postales, notamment, qui les représentent. Donc là, c'est des femmes qui ont des enfants, en fait, déjà en Italie, et qui partent pour allaiter les enfants de la bourgeoisie marseillaise à ce moment-là. Et elles viennent, ce sont des Italiennes. Alors là aussi, dans les textes, c'était assez intéressant de voir les représentations de ces immigrantes-là. Donc, et souvent, était mis en évidence l'inversion des rôles, en fait. Des femmes qui viennent seules et qui laissent les maris, et dont les maris restent au pays. Et donc, les maris étaient toujours représentés comme inactifs et même exploités, comme si c'était eux qui exploitaient leurs femmes. Donc, des fois, c'est quasiment des proxénètes qui font travailler leurs femmes comme nourrices et qui récoltent l'argent. Alors, les femmes viennent aussi travailler temporairement en France en tant que domestiques. Donc, il y en a beaucoup qui viennent se placer comme bonnes pendant les mois d'hiver. Elles repartent. Donc, il y a beaucoup de parcours assez courts, enfin, temporaires, pour les travaux agricoles, par exemple. Et il y en a, finalement, après plusieurs migrations temporaires, elles s'installent définitivement en France, comme cette Italienne qui vient se placer en 1926 comme bonne chez un sujet ottoman pendant 2 ans, et qui, après le départ de son patron, retourne en Italie, puis revient 6 ans plus tard à Marseille pour travailler comme bonne d'enfant. 5 ans après, elle s'installe à Château Renard, donc à côté de Marseille, pas d'Avignon, et elle se marie avec un Français. Donc on voit des parcours qui ne sont pas forcément linéaires, et beaucoup d'allers-retours. Alors, donc le placement dans la domesticité, là, fonctionne aussi beaucoup par réseau personnel, et les organismes de placement public, là, qui prennent en charge le placement des étrangers après la Première Guerre mondiale, ils n'arrivent pas à combler les demandes. Donc là, par exemple, en 1926, il y a un rapport sur le marché du travail marseillais qui dit à propos des domestiques. Les employeurs font appel à la main-d'œuvre étrangère, principalement italienne, qui font venir sur les indications de bonnes déjà placées en France et qui désirent faire venir une parente ou une amie, parce qu'ils n'arrivent pas par les canaux officiels à faire venir des domestiques. Donc là, par exemple, Umberta, donc, qui vient se placer comme femme de chambre en 1929 au service d'une famille donc, qui est le patron d'une usine, d'une huilerie marseillaise, dans laquelle est déjà employée sa sœur en tant que cuisinière. Donc elle raconte sa venue en France dans une lettre. Elle dit « Ma sœur aînée étant placée chez Monsieur de Roux, je voulais la rejoindre. Je fis à cet effet une demande de passeport à mon gouvernement pour venir en France. Cette demande ne fut pas accordée. Au mois de septembre, sachant que ma sœur se trouvait à Chamonix avec ses patrons à leur résidence d'été, j'ai décidé de quitter l'Italie sans passeport. Je me suis donc cachée dans un autocar qui fait le transport des touristes. De cette façon, j'ai passé la frontière de Modane sans être inquiétée. » Donc on voit qu'elle n'obtient pas l'autorisation d'émigrer, mais elle se débrouille quand même pour franchir la frontière et venir se placer en France. Alors j'ai pu remarquer aussi dans d'autres sources là, relatives au paiement de la carte d'identité d'étranger, des papiers là, qu'on demandait aux étrangers à partir de 1917, donc que les femmes souvent, comme elles exercent des activités plus informelles que les hommes, elles échappent plus facilement à la contrainte des papiers. Plus facile pour elles, et même dans des lettres, des fois à la préfecture, parce que finalement elles doivent quand même payer la taxe, disent « mais moi je pensais en tant que femme que je n'avais pas besoin de faire les papiers, je pensais que c'était que mon mari ». Du coup, on voit qu'elles échappent, c'est plus facile pour elles d'échapper à la contrainte, et elles utilisent même l'argument d'être une femme pour justifier le fait qu'elles n'avaient pas de papiers. Donc, puisque la question des papiers devient vraiment centrale là, dans le quotidien des individus, à partir de cette période-là, des années 20 et 30. Alors, j'en arrive au dernier point de ma présentation, qui porte sur le genre de la naturalisation. Alors, l'État français donc, lance une politique de naturalisation sans précédent dans les années 20, donc toujours en raison de la faiblesse démographique française. Alors, dans le cas, j'ai étudié le cas de la naturalisation par décret et par mariage. Alors, dans le cas de la naturalisation par décret, qui constitue, là, c'est pas un droit, c'est une faveur, c'est l'État qui décide ou non de naturaliser des gens, donc qui établit une liste de critères. Il peut très bien décider de ne pas naturaliser en fait, la personne. C'est un pouvoir discrétionnaire. Donc, il y a une loi qui est votée en 1927 pour encourager le nombre de naturalisés par décret. Et donc, c'était intéressant de voir, puisque comme les conditions exigées par la loi pour pouvoir faire une demande étaient théoriquement les mêmes pour les hommes et les femmes, de voir s'ils étaient naturalisés de la même manière, s'ils étaient moins naturalisés, si les hommes étaient plus naturalisés que les femmes, pour quels critères, etc. Donc j'ai analysé près de 3000 dossiers de demande de naturalisation par décret, Et cette analyse donc, des pratiques administratives au niveau local donc, a mis en évidence que le sexe des postulants à la naturalisation est combiné au sexe, donc leur situation matrimoniale, leur âge, joue un rôle fondamental donc, dans la sélection des naturalisables. Alors, mon analyse a montré que les principaux bénéficiaires de la naturalisation par décret sont des hommes, donc environ 65%, sans compter, si on ne compte pas les enfants. Donc, pourquoi des hommes ? Donc, l'État souhaite, pendant cette période, grossir les rangs de l'armée par ce biais, et c'est le principal critère de sélection des hommes, c'est leur aptitude au service militaire, donc ce qui est explicitement indiqué dans des circulaires, et cela devient une priorité dans les années 30. Ah, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, rien à voir, mais la carte d'identité d'une femme, dont je vous parlais des papiers. Donc voilà à quoi ça ressemblait, carte d'identité, que les étrangers devaient porter avant que la carte d'identité française existe, que la carte d'identité française existe depuis 1940, elle a été créée par le régime de Vichy. Et avant, donc c'était les étrangers qui avaient une carte d'identité, et avant les étrangers, c'était les populations dites nomades qui avaient une carte d'identité. Donc on voit, ça a concerné de plus en plus de gens. Donc voilà pour revenir à la naturalisation. Donc voilà un tableau qui représente les veufs et célibataires naturalisés par sexe dans les Bouches-du-Rhône, donc par sexe. Donc on voit, donc vous avez la courbe bleue, ce sont les femmes veuves. La courbe rouge avec les carrés, donc les hommes célibataires. En vert, les femmes célibataires, et en violet, les hommes veufs. Donc, on peut voir dans le graphique que le nombre d'hommes célibataires, donc en rouge, vous voyez, augmente considérablement au cours de la période. Alors là, on voit que les femmes veuves, on voit, elles sont assez nombreuses au début, là. Donc ça, en fait, c'est des cas de femmes qui demandent, des Italiennes surtout, qui demandent une pension, enfin, demandent la naturalisation pour pouvoir obtenir une pension en tant que mère d'enfants morts pour la patrie, pendant la guerre. Donc, elle demande juste pour ça, elle le met dans le motif, elle demande la naturalisation pour obtenir cette pension, puisque seules les Françaises ont droit à cette pension. Et finalement, l'État, ne voyant aucun intérêt à naturaliser ces femmes, il décide d'élargir le droit à cette pension aux étrangères. C'est pour ça qu'après, il n'y a plus de demande pour ça. Mais on voit donc la naturalisation d'un nombre de plus en plus important d'hommes célibataires. Donc ça, c'est dans la logique de la loi qui a guidé de la loi de 1927. Intégrer les hommes, surtout donc de la seconde génération, enfin des enfants d'immigrants, surtout, qui ont grandi en France, pour grossir les rangs de l'armée. Donc la naturalisation de futurs soldats devient un objectif prioritaire à partir de 1936. Donc déjà, dès 1934, donc se développe une inquiétude sur la baisse du nombre de jeunes incorporés pour la période 36-40. Et le garde des Sceaux du Front populaire donc déclare en 1936 que la naturalisation doit tenir compte au premier chef des nécessités de la défense nationale. Donc, et ces directives sont suivies. Alors les avis motivés sur les demandes ressemblent de plus en plus à des tests d'aptitude au service armé. Donc par exemple, la requête là, d'un jeune Italien né dans la principauté de Monaco, âgé de 21 ans, qui reçoit cet avis motivé de la préfecture en 1932. Le sujet italien BE, né à Monaco, le 25 mars 1911, qui sollicite sa naturalisation, est célibataire. Robuste et bien constitué, le postulant présente, ainsi que l'indique le certificat médical joint au dossier, l'aptitude physique au service militaire actif. Dans ces conditions, et en tenant compte des bons renseignements recueillis sur cet étranger, j'émets un avis favorable à sa naturalisation en proposant une remise de 9 dixièmes des droits du sceau. Voilà, alors j'ai pu constater aussi ce qui était intéressant dans l'analyse de ces dossiers, des questionnaires, parce qu'il y avait un grand questionnaire avec plein de questions, que les étrangers et les étrangères connaissent en général les critères de sélection et répondent ce qu'on attend d'eux. Donc ça, c'était assez intéressant. Et même parfois, j'ai trouvé aussi l'existence d'organismes qui les aidaient à faire les dossiers, enfin, qui se faisaient payer, qui était à côté de l'endroit où il fallait déposer le dossier. Alors, il savait très bien ce qu'il fallait répondre pour pouvoir... Donc, j'ai analysé ce qu'il répondait. Pourquoi vous demandez la naturalisation ? C'est une question. Et donc, ça, c'était assez intéressant. Et j'ai trouvé aussi ces stratégies déclaratives là, dans des lettres, et notamment cette lettre d'une Italienne naturalisée qui sollicite une prime à la natalité pour son huitième enfant. Alors elle, elle écrit directement au ministre de la guerre. Alors que c'est même pas ce ministère qui s'en occupe. Hein. Ah, bah, je l'ai pas. Alors, est-ce que je l'ai... Voilà. Donc lettre de Pascaline au ministre de la guerre en 26. Monsieur le ministre, c'est à vous que je m'incline et implore votre secours. Pensez, je dois fournir 7 bons Français au régiment. Ne pourriez-vous pas faire une œuvre à mon égard à seule fin que je touche cette prime? Si c'est possible, en cas contraire, ne puis-je pas avoir un secours à la place? Donc, voilà, les gens savent très bien ce que l'État attend d'eux et ce qu'il faut mobiliser comme argument. Alors, du côté des femmes, celles qui sont naturalisées, parce qu'il y en a qui sont quand même naturalisées, donc, le plus souvent, elles sont épouses ou mères. Donc, elles ne sont pas considérées comme naturalisables, pour celles qui ne le sont pas, car elles sont célibataires. Si elles sont célibataires, elles ont moins de chance. Veuves, moins de chance. Trop âgées, ou alors si elles n'ont pas de fils. Donc, on peut lire, par exemple, les avis suivants. La postulante célibataire n'a pas d'antécédent judiciaire, bonne moralité. Toutefois, sa demande n'offre aucun intérêt au point de vue national. Avis défavorable. Ou alors, pardon, ils sont là. La postulante est âgée de 52 ans. Sa naturalisation ne présente aucun intérêt. Avis défavorable. Ou alors, la postulante est veuve, elle n'a que des filles. Sa naturalisation ne présente aucun intérêt. Donc, on voit bien, là, c'est clair. Alors, on trouve aussi des ajournements de dossiers, c'est-à-dire soumis à de nouvelles conditions plus tard. Par exemple, relatif au nombre d'enfants. Ajournement à fondation d'un foyer français. Donc, en fait, on leur demande de faire des enfants et refaire une demande de naturalisation. Ou bien ajournement à 3 ans, sauf survenance d'un enfant. Donc, voilà. Les facteurs d'exclusion et d'intégration à la nationalité française révèlent plus largement les attentes de l'État envers ses nationaux, hommes et femmes, français ou étrangers, dans le contexte de l'entre-deux-guerres, et mettent en évidence une citoyenneté marquée par l'impôt du sang, qu'il s'agisse des hommes qui peuvent être incorporés ou des femmes dont le corps est mobilisé au service de la nation, donc en tant que mère de potentiels soldats. Alors la naturalisation par décret n'est pas le seul moyen par lequel on peut devenir français, donc j'ai analysé ça, mais j'ai aussi analysé par exemple la transmission de la nationalité par mariage, donc là qui ne concerne que les femmes. Alors, depuis le code civil de Napoléon, au début du XIXe siècle, donc la femme, qu'elle soit française ou étrangère, suivait la nationalité de son mari en cas de mariage. C'est-à-dire une Française qui se mariait avec un Italien, elle devenait italienne et elle perdait sa nationalité française. Ou une Italienne qui se marie avec un Français devient française. Donc ça a été contesté, cette loi. Donc dans le code civil, là, a été contesté par des groupes féministes, parce que le code civil, comme il a été exporté aussi dans de nombreux pays, c'était le cas dans plein de pays, en fait. Donc il y a eu une conjonction d'une revendication féministe, qui fait que la nationalité des femmes devait être indépendante de son mariage, par exemple, et des natalistes, donc, qui, eux, préféraient que les Françaises qui se mariaient avec un Italien restent françaises, puisque les enfants, sinon, devenaient italiens sur le sol français. Donc, il n'y avait pas d'intérêt vraiment pour augmenter la population française. Donc, il y a eu une conjonction des féministes et des natalistes sur cette question-là. Et l'indépendance de la nationalité de la femme mariée est en partie adoptée dans la loi de 27. Alors, mais le droit de conserver sa nationalité ou d'en changer est quand même limité dans cette loi. Voilà, donc bon, là, c'est un peu compliqué, je vais passer... voilà. 5 minutes. Ok, j'arrive à la fin. Ça tombe bien. Alors, à partir des années 30, la naturalisation par mariage va être remise en cause, notamment à l'occasion d'un traité international, d'une ratification d'une convention internationale. Donc, j'ai pu analyser comment les naturalisés par mariage, donc que les femmes, parce que les hommes, ils ne peuvent pas être naturalisés par mariage, suscite la suspicion chez les hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Donc il y a crainte des mariages blancs dans un contexte, donc dans les années 30, de xénophobie d'État. Et la figure de l'étrangère qui entre dans le corps de la nation par le mariage devient potentiel indésirable. Et la naturalisation par mariage va cesser d'être automatique en 1938 par un décret. Donc à partir de ce décret-là, donc une étrangère qui se marie avec un Français donc devait souscrire une déclaration. Et le pouvoir exécutif, il pouvait refuser de donner la nationalité française à l'étrangère. Il y avait une enquête auprès du Conseil d'État, par exemple. Alors, donc là, j'ai analysé aussi ces dossiers-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on voit bien que celles qui ne peuvent pas acquérir la nationalité française, en général, c'est des questions de moralité. Et qu'en fait, elles ont plus de chances quand même de devenir françaises par le mariage que par la naturalisation. Alors, c'est resté en vigueur jusqu'à nos jours, ça, le contrôle du pouvoir exécutif sur la naturalisation des femmes par mariage, alors qu'avant, c'était automatique, là, avant 38. Et donc, ça a changé, ça change tout le temps, là, mais il y a de plus en plus de restrictions. Donc, et il est étendu aux hommes en 73, et dans un contexte où, finalement, il y a de plus en plus de restrictions, on l'étend aux hommes en 73. Alors, pour conclure... Donc je dirais qu'il s'agisse des discours, des représentations, du comptage statistique, de l'accès au travail, à la naturalisation, le genre des individus imprègne une variété de pratiques et d'institutions de niveaux différents. Alors encore aujourd'hui, le genre imprègne des politiques d'immigration et d'accès à la citoyenneté, et les textes législatifs, souvent, donc, ils sont rédigés d'une manière neutre, alors qu'en fait, si on observe par exemple leur application... on s'aperçoit qu'il y a des effets souvent différents et des pratiques administratives différentes vis-à-vis des hommes et des femmes, même si le texte apparaît comme neutre. Donc le schéma de l'immigration classique privilégie la famille nucléaire, un homme venu travailler, rejoint par son épouse et ses enfants, tend à produire donc, chez les femmes des situations de dépendance vis-à-vis d'un conjoint, d'une famille, et contraint celles qui immigrent seules au séjour et au travail non déclaré. Donc bien souvent synonyme d'exploitation. On voit qu'il y a ce modèle-là, là, que si on ne rentre pas dans la case, c'est plus difficile. Donc le genre imprègne aussi la procédure de demande d'asile aujourd'hui, puisque l'activité politique des femmes n'est pas vue comme allant de soi, et il est plus difficile pour elles d'accéder au statut de réfugiée. Alors au cours de ce travail de recherche, j'ai aussi été attentive aux organisations, j'en ai pas parlé, mais intermédiaires qui se situent à l'interface de l'administration française et des migrants. Parce qu'en fait, il y a tout un tas d'acteurs là, qui sont présents, dans les politiques d'immigration au sens large, donc les organisations patronales, les associations diverses. Et ça m'a permis de constater que l'immigration et les questions de nationalité, qui sont d'ordre national, étaient aussi abordées dans les années 20 et 30, et en particulier la question des familles et des femmes, à l'échelle internationale, et aussi celle de la discrimination de sexe dans le droit de la nationalité. Donc auprès des organisations internationales naissantes, comme la Société des Nations ou le Bureau international du travail. Donc il y avait des questions qui étaient portées par des groupes de femmes et ce sont aujourd'hui ces mobilisations-là qui m'intéressent et je travaille là-dessus en ce moment. Voilà. Merci.
En tout cas, merci pour cet exposé qui était dense, hein, vraiment intéressant. Alors, je rappelle juste parce que j'ai oublié de le faire en introduction, Yann faisant ça d'habitude très très bien, ça m'avait juste échappé. Je rappelle juste l'objectif hein, de ces séminaires hein, qu'on a mis en place en collaboration avec l'école doctorale. C'est de permettre en fait ici à des chercheurs et donc à majoritairement des étudiants de montrer la façon dont se construit un objet de recherche, se construit l'accès et les dispositifs que peuvent mettre en place ou que développent les chercheurs pour accéder, pour répondre à leurs questions et la diversité des sources qu'ils peuvent employer. Je crois qu'aujourd'hui, l'exposé qui a été fait nous a vraiment montré... moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est la diversité des sources qui a été utilisée pour réussir à appréhender une situation qui effectivement n'apparaît pas comme étant quelque chose de traité de façon très très classique dans l'immigration, enfin dans les études qui sont portées sur l'immigration. Alors moi, ce que ça m'a fait écho et bon, juste quelques éléments comme ça, moi qui m'ont intéressé, c'est quand on c'est si on regarde ce que tu as pu développer aujourd'hui par rapport à des questions qui sont beaucoup plus contemporaines. On a vraiment l'impression quelquefois d'entendre une analyse quasiment extrêmement actuelle des questions de migration. Et entre autres, moi, sur les travaux que j'ai pu réaliser sur le Moyen-Orient et sur les populations réfugiées au Moyen-Orient, on retrouve tout à fait exactement toutes ces questions qui sont liées, par exemple, à la présence des femmes sur le marché du travail liées au salaire, qui trouvent beaucoup plus facilement à s'employer parce que le salaire qu'elles demandent est beaucoup plus faible. Aussi parce que très souvent, elles ne travaillaient pas dans leur pays d'origine et que donc, du coup, il n'y a pas de déclassement, alors que certains hommes refusent de s'intégrer sur le marché du travail parce que les segments dans lesquels ils pourraient s'intégrer pour eux représenteraient un déclassement. Et aussi cette facilité, quelquefois, pour certaines femmes, et ça, c'est quelque chose qui est relativement étonnant, c'est que on a exactement les mêmes figures de femmes qui échappent beaucoup plus au contrôle des papiers et qui peuvent donc circuler beaucoup plus librement dans l'espace public, ce qui leur permet de travailler plus facilement, alors que les hommes sont souvent beaucoup plus appréhendés par la police, ils sont plus soumis à cette question de la vérification des papiers. Et donc on a comme ça des faisceaux d'éléments, mais qui me rappellent complètement ce qu'on peut voir dans les situations, par exemple, des populations irakiennes qui ont quitté l'Irak après la guerre en 2003. Et puis évidemment, d'autres éléments comme l'idée qu'il y aurait une féminisation des mouvements migratoires, alors que certaines vagues migratoires sont féminisées, c'est plus on a des masculinisations. On a traité ça avec Philippe Venier dans un cours récemment, entre autres en parlant des Philippines, où aujourd'hui on a plutôt une masculinisation croissante et non pas un processus de féminisation, avec cette image aussi, cette figure des mères de famille seules, émigrées, qui laissent les enfants et leurs maris dans le pays d'origine. Donc là, vraiment, on a ces éléments-là qui, à mon avis, font tout à fait écho et qui vraiment permettent les travaux historiques nous permettent vraiment de relativiser, ou en tout cas de remettre en perspective un certain nombre de nos analyses d'aujourd'hui. Et c'est vraiment toujours très, très utile. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé aussi vraiment intéressant, si on le compare avec les discours qui sont produits aujourd'hui dans certains ministères ou à l'échelle de l'Union européenne, c'est la vision extrêmement utilitariste de l'immigration. Là, on en a des exemples. Alors, je crois que, c'est qu'aujourd'hui, on ne l'écrirait plus en ces termes-là. Enfin, mais en tout cas, derrière, ce qui est sous-tendu, c'est vraiment, alors là, dans la forme du discours qui est produit par les institutions, il y a vraiment une différence absolument notable, parce que je pense qu'on ne retrouverait plus des textes. Mais simplement, derrière, on perçoit tout à fait exactement cette même logique. Et puis la question là, de la suspicion du mariage blanc, alors là, vraiment, j'aurais pas pu imaginer qu'à l'époque, déjà, c'était quelque chose qui hantait les esprits, mais c'est vraiment, je crois, intéressant d'instaurer ces perspectives, quoi, de les inscrire dans une profondeur historique. C'est vraiment très intéressant. Donc on va laisser la place et la parole du coup au public.
J'espère. Si merci beaucoup en tout cas. Merci.
Questions. Sinon juste une remarque. Ah, juste.
Allez, je passe le micro parce que c'est. Merci.
Oui, bonjour. J'aurais éventuellement une question sur les pratiques militantes des femmes immigrées dans l'entre-deux-guerres. Je sais qu'à cette époque-là, le PCF se constituait et il visait beaucoup à recruter donc les ouvriers les plus dominés. Et donc, il prenait des immigrés, des femmes, des jeunes. Est-ce que vous avez utilisé cette source-là pour étudier les pratiques militantes de ces femmes? Et parce que je pense qu'il doit y avoir des archives, je ne sais pas, départementales ou nationales, assez denses sur les adhésions et tout ça. Donc,
Alors, donc là, j'ai trouvé la question du syndicalisme et des grèves de femmes dans le cas des filatures, là, dont je parlais tout à l'heure, des ouvrières qui se mettent en grève. Et là, elles sont approchées par, effectivement, la CGTU, donc, qui tente de les syndicaliser. Donc, et petit à petit, elles sont syndicalisées. Mais au départ, ce sont des grèves autonomes qu'elles mènent. Donc ça, c'est assez typique des grèves de femmes, là, des grèves spontanées, autonomes dans l'histoire des grèves de femmes en général, pas que des immigrantes. Et du coup, donc, c'est un homme qui vient les syndicaliser. Et donc, elles font des réunions, elles les amènent à la Bourse du Travail, donc elles se syndicalisent. Donc, il y a pas mal d'articles, là, donc j'en parle un petit peu. Mais sinon, par rapport à la politique de syndicalisation des femmes, là, elles rentraient pas, les femmes étrangères, c'était pas une catégorie qui existait pour le Parti communiste, où il y avait les étrangers, les femmes, mais il y avait pas, et les colonisés, mais pas les femmes étrangères. Donc ça, c'était pas une catégorie pensée, en fait, dans les démarches de syndicalisation des ouvriers. Mais effectivement, donc il y a des liens, et même il y a des... Dans la presse, c'est assez mal vu. Ils sont vus, là, ces syndicalistes, comme manipulant ces femmes, etc. Enfin, c'était assez intéressant de voir comment on en parlait dans la presse, là. Voilà ce que je peux dire.
Moi, en fait, ce que je voudrais comprendre, c'est ces femmes-là qui travaillaient dans les filiatures. Mmh. Et elles gagnaient des remises. Qu'est-ce qu'elles en faisaient? Elle les utilisait pour les suivre ou bien les envoyer au pays. Parce qu'il y a une femme là qui déclare avoir laissé ses enfants, elle était obligée de partir. Mais elle a travaillé, elle a gagné un peu d'argent. Qu'est-ce qu'elle en fait? C'est pour sa survie ou bien pour ses enfants?
Alors ça, je n'avais pas de source précise sur ce qu'elle faisait de cet argent-là, mais effectivement, elle venait de manière temporaire, je pense, pour économiser et pour repartir avec l'argent au pays. Ça, je pense que comme elles étaient en plus logées sur place, donc c'était retiré de leur salaire, etc., du coup, elles ne payaient pas de... Vous voyez, c'était quand même retiré du salaire. Mais alors que soi-disant, ce n'était pas retiré, mais en fait, il le retirait. Mais du coup, je pense qu'elle oui, elle le ramenait au pays. Elles étaient payées plus que pour le même travail en Italie, en fait, dans ces filatures. C'est pour ça qu'elle venait ici. Okay, et donc, je pense qu'elle ramenait cet argent-là au pays, effectivement.
Au fait, au cas où une de ces femmes-là tomberait enceinte dans une filature, l'enfant... Ce que j'aimerais savoir, est-ce que ces femmes-là, autrement, est-ce qu'elles étaient utilisées autrement que seulement dans les filières? Est-ce qu'elles travaillaient autrement ou la nuit, elles se promenaient ou bien elles étaient vues par d'autres hommes ou bien dans une politique encore de revoir en hausse? Là,
voilà. Ben là j'ai pas trouvé de source précise là-dessus. C'était difficile de trouver des sources. Là, j'ai pas de détails sur la vie vraiment quotidienne de ces femmes-là. Ah, okay. Après, mais peut-être c'est faisable, mais... Okay. Voilà.
Mais peut-être que de partir comme ça pouvait aussi être une libération par rapport à la vie. Enfin, je sais rien. Elles étaient seules, elles étaient peut-être aussi...
Ça, c'est une question aussi, en général. Est-ce que l'émigration participe à l'émancipation des femmes? Donc, en fait, là, dans chaque situation... Enfin, je ne sais pas. Il faudrait creuser. Je n'ai pas vraiment pas de source là pour étudier cette question-là, mais on peut se poser la question, c'est vrai.
Est-ce que vous avez un regard critique sur les politiques de naturalisation?
Est-ce que
vous avez un regard critique sur les politiques de naturalisation? Je sais que c'est difficile quand on est chercheur d'avoir un regard tout de suite critique.
Oui, c'est vrai que c'est choquant de voir le principe vraiment utilitariste des politiques. C'est vraiment choquant, ça c'est clair. Après, en tant que citoyenne, quand on voit ça, c'est choquant, effectivement.
Mais est-ce que vous avez des propositions?
Non, je ne suis pas politicienne. Donc
mais la recherche peut être aussi utilisée pour la politique.
Non,
on écrit,
sûr.
Mais on ne sait pas.
Bien sûr, bien
sûr. Il y a qui ont fait une recherche, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle devient.
Non, c'est sûr. Mais voilà.
Mais est-ce que vous avez pu recommander dans votre livre, « Bon, voilà, je souhaiterais que mes recherches soient utilisées à de telle ou telle fin. » Parce que c'est vrai qu'en moi, toutefois, en suivant cet exposé-là, je me dis, « Bon, voilà, c'est, je dirais entre guillemets, c'est odieux que tout ce qu'ont fait ces femmes-là. » On les aurait utilisés juste pour qu'elles portent des enfants et rehausser un peu la population de ceux qui partaient en guerre et après on s'en débarrassait. Et c'était même difficile pour elles, la naturalisation. C'est dans ce cadre-là, quoi. Est-ce que vous voudrez qu'un Damien après qui devient ministre utilise tout ça pour en faire un combat après?
Libre à chacun d'en faire ce qu'il veut, mais c'est ça, les faits sont là.
Attendez, c'est bien, il y a un débat qui...
Peut-être pour atténuer ou relativiser les questions et les échanges que vous avez, est-ce que le phénomène était le même avec les femmes françaises de la campagne vers la ville?
Par rapport à
la façon d'utiliser la femme, parce que finalement c'est peut-être juste un débat sur la puissance des hommes sur les femmes, et puis une exploitation classique qui était la même pour les Bretonnes que pour les Italiennes.
Alors le travail, effectivement, on voit vraiment une continuité par rapport aux migrations internes, ça c'est clair, dans les discours notamment sur la morale et même dans le travail. Alors après, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Quand on n'a pas la nationalité française, il y a toutes les questions de papier, etc., qui rajoutent des contraintes là, que les Françaises ne connaissent pas, par exemple. C'est là où ça peut être une différence. Mais sinon, pour les filatures, effectivement, ça a commencé, ça. C'était des filles des campagnes qui allaient vers les villes. Les usines, internats, ça existait déjà dans la région lyonnaise avant. Et après, ils sont allés chercher la main-d'œuvre plus lointaine parce que les Françaises, même, elles ne voulaient plus travailler là-dedans. Alors, dans certaines filatures, c'était mélangé, effectivement, mais là, c'était vraiment pratiquement que des étrangères. Mais sinon, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y avait des tensions entre les Françaises et les étrangères, là. Oui. Voilà. Mais c'est vrai.
Et c'est vrai que j'ai eu, il y a un passage où on parle de un garçon, je dirais, il a pu avoir la naturalisation juste parce qu'il était robuste, il a passé la visite médicale. Est-ce que c'était le cas au niveau des femmes? Est-ce qu'on avait besoin d'une femme grande?
Non,
voilà.
Non, en fait, non, il suffit qu'elle soit mère, ça suffisait. Et pas vieille, voilà. Après, le facteur âge. Mais par rapport au physique, ouais, au physique, voilà, le facteur d'être âgé, ben, on ne peut plus avoir d'enfants, donc voilà.
En fait, par rapport au physique,
c'est
justement,
ça.
Si une femme...
C'est ça, âgée, voilà.
Ouais. Pas âgée,
c'est... Et c'est vrai, non, il y avait aussi... C'est vrai que j'ai trouvé aussi un cas. Alors, c'était une femme qui avait un handicap.
Voilà,
du coup,
voilà.
Elle n'a pas justement. Été sélectionnée. Ouais.
Voilà. Donc, il s'agit de parler de ces handicaps-là. C'était combien Est-ce qu'une naturalisation pouvait être refusée ou bien le passage d'une frontière pouvait être refusé à une femme juste parce qu'elle portait un handicap, je ne sais pas, si elle est borgne ou des trucs comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez un peu accusé ces questions-là?
Un seul, là, pour le cas de la femme handicapée. Mais... Merci.
Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir la question de la bonne moralité. C'était pourquoi on pouvait refuser, en fait, la naturalisation d'une femme pour mauvaise moralité. Qu'est-ce que ça correspond à quoi?
Alors ça, j'ai surtout trouvé... la moralité, là, qu'on voit, par exemple, bonne moralité, bah, c'est s'il y a des affaires liées à la prostitution ou de filles-mères ou des choses comme ça qui étaient très mal vues, là. Donc... Et même la naturalisation par mariage, celles qui se font refuser, celles qui sont soupçonnées de se prostituer, par exemple... Donc, lié à la sexualité, en fait, souvent. Des viandes. Alors, oui, il y avait un rapport de police, en fait. Pour les demandes de naturalisation par décret, en fait, moi, j'ai analysé les dossiers au niveau préfectoral. Donc, il manquait des... J'avais pas tous les documents en main. Parce qu'ils sont, il y avait une version avec tous les documents qui étaient envoyés, en fait, au garde des Sceaux, enfin, au ministère de la Justice. Du coup, j'avais pas les rapports de police détaillés. Mais sinon, pour la naturalisation par mariage, là, il y avait les rapports de police, donc qui n'étaient pas très détaillés, sauf s'il y avait donc, un soupçon. On demandait un rapport plus complet au commissaire de police. Donc là, ils allaient interroger les voisins, par exemple, le voisinage. Mais en général, c'est des petits rapports. Et ils demandaient quelque chose de plus complet en cas de soupçon de prostitution, de mauvaise... Voilà.
Excusez-moi, en fait, je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez parlé, alors je ne sais plus dans quel contexte, vous avez parlé d'étrangers immigrants.
Oui, en fait, parce qu'on pouvait être étranger sans avoir migré aussi, c'est possible. Par exemple, on pouvait naître sur le territoire français, parce qu'il n'y a pas le droit du sol complet en France, donc on peut naître et être étranger. Après, il fallait déclarer les enfants pour les faire français. Là, c'était une démarche des parents. Et après, à la majorité, ils pouvaient... confirmer ou non le fait qu'ils voulaient rester français. Mais en fait, ou alors, par exemple, des Françaises qui s'étaient mariées avec des Italiens, par exemple. Elles deviennent étrangères alors qu'elles sont françaises. Donc, dans le recensement, elles apparaissent comme étrangères. D'ailleurs, il y avait des questions, là aussi. On voit que les catégories, elles n'étaient pas bien fixées, là, parce qu'ils ne savaient pas trop si, par exemple, une Française naturalisée par mariage, il fallait la compter française ou étrangère. Donc, même les agents recenseurs, ils ne savaient pas vraiment. Donc, il y avait une espèce de flou, des catégories floues comme ça. Ce n'était pas très fixe encore.
Alors, il y a encore deux questions derrière. Une juste derrière, puis après.
Est-ce que vous pourriez nous parler des sources et des difficultés pour obtenir des sources? Moi, je suis une vieille étudiante en M1 et j'ai des problèmes de sources.
OK. Alors, donc pour revenir à ce que disait Kamel, là, la diversité des sources, c'est vrai que c'est le fait que je ne trouvais pas trop des trucs sur les femmes qui m'a amené vraiment à diversifier les sources, en fait. Donc ça, j'ai dû vraiment chercher partout, même il y a plein d'archives que j'ai regardées et en fait il n'y avait rien, j'ai rien trouvé. Donc ça aussi c'est intéressant de voir, des fois on trouve rien. Donc pour l'accessibilité, pour pouvoir voir les dossiers par exemple, donc là comme les dossiers de naturalisation, là, par exemple pour cela, c'était les dossiers qui étaient en préfecture et que là la préfecture des Bouches-du-Rhône les a conservés, mais toutes les préfectures ne les ont pas conservés. Là, ils sont en libre accès, c'était par carton, en fait. Et par contre, si on demande un dossier de naturalisation là, au niveau national, au niveau des archives nationales, là, c'est beaucoup plus compliqué. On peut demander qu'un seul dossier. Donc là, j'ai pu faire une analyse statistique assez grande parce que j'avais accès facilement en fait, à ces dossiers. Donc ça, c'était une chance. Mais ils ne sont pas conservés partout. C'était par rapport au dossier de demande de naturalisation. Après, les journaux, ils sont conservés dans les archives départementales. Des lettres par rapport à la taxe de la carte d'identité, là, c'était surtout les archives départementales, archives départementales nationales aussi, pour les ministères, tout ça, les débats du Parlement, les débats du Parlement aussi, donc là, c'est des journaux officiels, tout ça, donc... Voilà, après les cartes postales, alors après je suis allée chez des collectionneurs, des boutiques de cartes postales, voir si je trouvais des photos, des trucs, c'était une figure qui était représentée dans les cartes postales par exemple. J'ai aussi analysé un film, Tony, de Jean Renoir, je ne sais pas si vous connaissez, qui est le seul film qui parle de, qui a comme pour héros et héroïne un immigrant et une immigrante, un Italien et une Espagnole, et qui est sorti en pleine crise xénophobe en France dans les années 30, et c'est vraiment un cas unique là, dans le cinéma français. Donc là, c'était assez intéressant aussi de voir comment ils étaient représentés, mais c'était donc le seul film. Alors, j'ai regardé aussi la trilogie de Marcel Pagnol, voir s'il parlait des Italiens ou des Espagnols. En fait, pas du tout. Ils ne sont pas mentionnés dans la trilogie. Donc voilà, j'ai essayé de diversifier les sources.
En fait, moi, je voudrais savoir, je m'intéresse à une catégorie bien précise, en fait, les îles Comores. Depuis 1886, qu'on a installé le protectorat, il y a eu la marine marchande, en fait, qui faisait employer beaucoup des Comoriens là-dedans. Donc, finalement, ils s'installaient à Marseille. Et après, ils faisaient venir leurs épouses. Alors, est-ce que vous avez croisé dans vos recherches cette catégorie d'épouses à Marseille ?
Des Comoriens en particulier ?
Oui.
Alors moi, du coup, comme je me suis surtout concentrée sur les Italiens, les Espagnols, et je pouvais pas aussi traiter des colonisés ou des populations qui étaient sous protectorat français, parce que c'était d'autres catégories juridiques, c'était d'autres problématiques. Du coup, j'en ai un peu parlé, mais c'est vrai que j'ai peut-être pas regardé des sources où vous trouveriez ces personnes-là. Et vous pouvez voir sur les archives, dans les archives d'outre-mer, qui sont à Aix-en-Provence. Et là, je pense que vous pouvez trouver... avec son proie, les archives d'outre-mer, là, vous trouverez sans doute des éléments là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas consulté ces archives-là, parce que ce n'était pas dans mon...
Okay. Merci.
Vous voulez avoir le dernier mot ?
Donc, je suis en M1 cette année, je viens d'une formation de sociologie, voilà. Donc, je traite un thème qui est en rapport avec la crise malienne, là. Donc c'est difficile pour moi de me rendre au Mali et à Kidal qui est encore sous contrôle Yémen là, entre guillemets on dirait. Du coup je me disais que bon, puisque vous avez pu travailler sur des lettres, vous avez pu faire une analyse des discours, est-ce qu'il serait dans mon cas aussi, je dirais, possible de faire à partir des Maliens qui sont là, faire une analyse des discours et construire tout un objet de recherche.
Dans les lettres
Non, pas les lettres.
Non, en général, une analyse de discours. Ben oui.
Mais moi, à Poitiers, ici, les Maliens que j'ai ici, la plupart ici, sont des étudiants ou quelques trois familles, 45 ou plus. Donc, qu'est-ce que je pourrais leur passer? Des guides d'entretien que... Oui, est-ce que je pourrais théoriser à partir de ces guides d'entretien là et constituer mon mémoire?
Oui,
parce que je ne pourrais pas faire terrain.
Je pense que c'est possible, ouais.
Ah, c'est une question aussi. Voilà.
Ouais, moi, je pense...
Qui ont été faits sur les analyses de discours à Migrinter il n'y a pas longtemps. Il y a eu une analyse de discours de Brice Hortefeux et de Luc Besson, par exemple, qui est un très bon mémoire, sur les catégories qui étaient produites et comment c'est construit dans le discours politique.
Et donc, mais on peut faire des choses, on peut faire des analyses de discours sur des recueils d'entretien. Voilà, donc on peut. Et donc on peut faire ce genre de choses. On peut avoir des entretiens avec des personnes et recueillir comment s'y construisent ces catégories, par exemple, en fonction de son objet de recherche.
Voilà, parce que je voyais plutôt mon mémoire fragile. S'il me faut juste me contenter des discours d'étudiants ou de famille, théoriser et construire mon objet de recherche. Puisque je sais maintenant que c'est possible, je vais me mettre à la tâche. Merci.
Bon, merci à tous et de votre enthousiasme.
N'oubliez pas la date du...
Non, n'oubliez pas le 7 novembre, la prochaine conférence. Hop, écoute, on va remettre ce micro.